Merci d'écouter RFI. Il est 3h du matin à Djouba, 1h de moins ici à Paris.
Simon Bourtembourg.
Le premier vice-président sud-soudanais Riek Machar placé en surveillance, en résidence surveillée ce mercredi dans la soirée. L'ONU fait part du risque de voir le pays retomber dans un conflit généralisé. Le parti de Riek Machar condamne de son côté un acte anticonstitutionnel. À la une également, ces nouveaux droits de douane de 25% supplémentaires. Après l'acier et l'aluminium, Donald Trump s'attaque au secteur de l'automobile. Nous allons faire payer les pays qui prennent notre richesse, a déclaré le président américain. Et puis, en fin d'édition, nous serons en France où la question sensible de la haine anti-musulman était débattue ce mercredi à l'Assemblée nationale. Au Soudan du Sud, nouvelle escalade donc vers un possible retour à la guerre civile. Ce mercredi dans la soirée, le premier vice-président Riek Machar a en effet été placé en résidence surveillée par les forces de sécurité sud-soudanaises. L'annonce émane de son porte-parole, mais pour l'heure, les conditions exactes de cette détention et son implication pour la survie de l'accord de paix signé en 2018 ne sont pas claires. Quoi qu'il en soit, le Soudan du Sud n'a, semble-t-il, jamais été aussi proche d'un retour au conflit. L'ONU appelle d'ailleurs à la retenue et au respect de l'accord de paix. Les détails avec Florence Mietto.
C'est une évolution de la crise politique au Soudan du Sud aussi crainte qu'attendue. Les rumeurs d'une arrestation imminente de Riek Machar allaient bon train depuis début mars, lorsque la crise dans la région du Haut-Nil, au nord-est du pays, avait conduit à l'arrestation de plusieurs officiels de son parti à Djouba. Le placement du leader d'opposition en résidence surveillée fait planer un doute très important sur le processus de paix sud-soudanais. Cette détention constitue une violation de l'accord de paix, selon Pal Maïdeng, porte-parole du parti de Riek Machar. Il appelle la communauté internationale à s'assurer de la sécurité physique de Riek Machar. Nicolas Haysom, le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, a réagi dans un communiqué. Les amendements unilatéraux à l'accord de paix risquent de ramener le pays à un état de guerre. Cela ne va pas seulement dévaster le Soudan du Sud, mais la région tout entière. Fin de citation. La crise politique actuelle s'est envenimée lorsqu'une milice Nuer, réputée proche de Riek Machar, a pris une base de l'armée sud-soudanaise à Nasir début mars, puis tué son commandant ainsi qu'un pilote de l'ONU. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Toujours sur le continent, le général Tiani reste à la tête du Niger. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en juillet 2023, il a été donc proclamé président de la République, et ce pour une durée de 5 ans au minimum. Cette décision a été rendu à la faveur des recommandations d'assises nationales tenues en février dernier. De nouveau, de droits de douane sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Après l'acier et l'aluminium, le président américain s'attaque donc au secteur de l'automobile. Ces nouveaux droits de douane de 25% supplémentaires entreront en vigueur le 2 avril prochain. Une décision profondément regrettable, a réagi mercredi soir la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors que Tokyo annonce à l'instant envisager des mesures appropriées et examiner toutes les positions. Nous allons faire payer les pays qui prennent notre richesse, a de son côté déclaré le président américain. Donald Trump, qui a par ailleurs signé en début de semaine un décret pour remanier le processus électoral américain. Le texte impose donc aux États de contrôler de manière renforcée les listes électorales et de limiter le vote par correspondance. Un moyen pour le milliardaire républicain de dénoncer un système électoral qu'il juge biaisé à son encontre. Les détails avec Marine de la Moissonnière.
Désormais, pour s'inscrire sur les listes électorales et voter aux élections fédérales, il faudra prouver qu'on est bien américain en présentant son passeport ou son permis de conduire. Jusqu'à présent, certains États utilisaient d'autres méthodes pour vérifier l'identité des électeurs. S'ils refusent d'adopter ces nouvelles directives, alors ces États pourraient se voir privés des aides que Washington leur verse pour organiser les élections. Autre changement voulu par Donald Trump, la fin de la prise en compte des bulletins reçus au lendemain de l'élection, même s'ils ont été postés avant la fermeture des bureaux de vote. Des millions d'Américains vont être privés de leur droit de vote, s'inquiètent plusieurs spécialistes du droit, qui rappellent que la gestion du processus électoral est du ressort des États, pas de l'exécutif. Des associations comptent bien contester ce décret devant la justice. Donald Trump, de son côté, affirme vouloir empêcher les fraudes, fraudes qui, selon lui, ont été massives dans le passé, notamment lors de la présidentielle de 2020, affirme sans preuve celui qui n'a jamais reconnu sa défaite.
Elle y aurait même tenté de renverser les institutions brésiliennes. Jair Bolsonaro sera jugé pour tentative de coup d'État. Une décision historique rendue ce mercredi par la Cour suprême brésilienne. Jair Bolsonaro est accusé d'avoir pris la tête d'une organisation criminelle devant le maintenir au pouvoir après sa défaite à la présidentielle de 2022. Alors qu'il encourt une peine cumulée pouvant dépasser les 40 ans de prison, l'ancien chef d'État se dit victime d'une des plus grandes persécutions politico-judiciaires de l'histoire du Brésil. Au Salvador, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Une responsable de l'administration Trump s'est filmée devant une méga prison du pays où 200 migrants ont été transférés depuis les États-Unis. Devant des détenus alignés derrière les barreaux, cette proche du président républicain somme les futurs candidats à l'exil de ne pas rentrer illégalement aux États-Unis. C'est justement ce qu'avait fait en octobre dernier un Vénézuélien. Son nom, John William, il a été arrêté il y a 10 jours et il est désormais dans cette fameuse prison du Salvador. Depuis, sa sœur n'a plus de nouvelles et Carlos Pizarro a recueilli pour nous son témoignage.
L'avocat me dit qu'on n'a plus aucune trace de mon frère. Il n'apparaît pas dans les registres de la police de l'immigration américaine et encore moins au Salvador. Le 14 mars dernier, à 16h, il m'a dit qu'il serait expulsé vers le Venezuela le samedi. Le lendemain, le dimanche, on a été surpris d'apprendre que 2 avions étaient arrivés à la prison au Salvador. Je me suis immédiatement douté que mon frère avait été transféré là-bas. J'ai commencé à chercher des informations, voir des vidéos publiées sur Internet. Lundi, finalement, je l'ai reconnu sur une vidéo. Identificar a mi hermano
por un video. Est-ce que votre frère vous a dit avoir été en lien avec un gang ?
Non, il n'a jamais rien eu à voir avec ce genre de choses. Il n'a jamais été arrêté, ni emprisonné. Il n'a jamais eu ne serait-ce que des amis dans des bandes criminelles, contrairement à ce qu'il raconte.
Et de son côté, le gouvernement vénézuélien dénonce un amalgame entre migrants et membres de gangs. Un tête-à-tête ce mercredi soir entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron avant un sommet ce jeudi. Le président ukrainien est donc à Paris, où se retrouveront dans quelques heures une trentaine de pays alliés de Kiev pour une réunion sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine. Alors que Volodymyr Zelensky affirme que l'armée russe prépare une nouvelle offensive prévue au printemps, Emmanuel Macron a lui annoncé une aide supplémentaire à Kiev pour 2 milliards d'euros. Il a également accusé la Russie de vouloir la guerre. Le Premier ministre polonais l'a annoncé, Varsovie va mettre en place une disposition limitant le droit d'asile, une mesure destinée, selon le gouvernement, à lutter contre l'immigration organisée par Minsk et Moscou. La Pologne accuse en effet depuis plusieurs années la Biélorussie et la Russie d'organiser un afflux de migrants vers son pays. En France, la question sensible de la haine anti-musulman était débattue ce mercredi à l'Assemblée nationale. Les échanges ont été tendus et se sont donc focalisés sur la notion d'islamophobie. Aurélien Devernois.
J'aimerais que ce débat puisse permettre d'écouter les orateurs dans le calme.
Le vice-président de l'Assemblée, Roland Lescure, a bien du mal à calmer les bancs pourtant presque vides de l'hémicycle. Car à la tribune, les mots sont durs comme ceux de la députée écologiste Sabrina Sebaï, co-rapporteuse de l'enquête parlementaire sur les discriminations visant les musulmans en France.
Ce n'est pas l'islam qui menace les libertés individuelles, c'est l'islamophobie. On ne peut plus être arabe et porter une barbe à la télévision, ni porter un voile sur un terrain de basket, et bientôt même dans la rue.
Dans les travées occupées par la droite et l'extrême droite, on s'énerve. Julien Audoul, député Rassemblement National.
Le mot islamophobie n'a aucune réalité juridique, sociale, historique. Il n'existe pas.
Pas d'islamophobie, à peine des discriminations et agressions que justifie à demi-mot le député UDR Olivier Fessa.
Je suis convaincu que les rares agressions contre les musulmans sont aussi nourries par une peur rationnelle de l'islamisme.
De quoi faire sortir de ses gonds le député insoumis Sébastien Delogu, qui dénonce au contraire une rhétorique anti-musulmane continuelle dans le débat politique français.
Les Français ne se sentent pas en sécurité, vous nous parlez d'islam. Les Français ne peuvent plus se nourrir, vous parlez d'islam.
Dernière à la tribune, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, dénonce des discours populistes, tout en promettant la vigilance du gouvernement face aux chiffres en hausse des discriminations visant les Français musulmans.
En France toujours, le parquet national financier demande la condamnation de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de campagne. Le procureur estime que de l'argent liquide a bien circulé dans la campagne présidentielle de l'ancien chef de l'État en 2007. RFI, il est 2h passées de 10 minutes ici à Paris. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.